Chapitre 77. Jane estima qu'elle avait perdu 12 minutes à remettre en place les bougies. Ce répit avait permis au camping-car de parcourir une vingtaine de kilomètres. Elle couvrit cette distance en 8 minutes, pendant lesquelles Sandra aurait ajouté une bonne dizaine de kilomètres à son avantage. Les occupants de la Cherokee n'avaient aucune raison de se presser. La stratégie la plus efficace était encore de dépasser le camping-car et de l'attendre dans un endroit propice. Peut-être même avait-il une idée précise de l'endroit où il comptait agresser les deux femmes, auquel cas le temps était compté. Jane laissa Flagstaff derrière elle si vite qu'elle crut un instant avoir rêvé. Elle accéléra encore, vit l'aiguille atteindre le chiffre 160, puis 170, sans que son détecteur de radar lui donne la moindre raison de ralentir. Elle zigzaguait d'une file à l'autre, les véhicules les plus lents lui semblaient immobiles. Un conducteur changeant de file sans clignotant, un pneu qui éclate, un flic de la brigade routière la prenant en chasse, la situation pouvait basculer à tout instant. Mais Jane eut de la chance et poursuivit sa route sans encombre, si l'on accepte les coups de klaxon rageurs de plusieurs chauffeurs routiers. La circulation, sans être dense, n'était pas clairsemée et le soleil déclinait rapidement, mais il restait une demi-heure de lumière avant la tombée de la nuit. Agresser les passagères d'un camping-car sur une autoroute en plein jour comportait de sérieux risques et nécessitait des nerfs d'acier. Les pirates de la route n'avaient pas la possibilité de bloquer plusieurs files, ni même de feindre un accrochage avec un véhicule aussi imposant sans courir le risque de perdre le contrôle de la Jeep. Jane n'entrevoyait qu'une seule solution. Feindre une panne, adresser des signes à la conductrice du camping-car en espérant que Sandra s'arrête. Les trois hommes avaient eu tout le loisir de voir à qui ils avaient affaire en écoutant la conversation des deux femmes dans le restaurant et en les observant. D'un autre côté, deux femmes voyageant avec des enfants prendraient-elles le risque de porter assistance à un trio masculin? La réponse était non. Même si Sandra avait eu un cœur nettement plus imposant que son cerveau, elle ne mettrait jamais ses filles en danger. Surtout après avoir appris de la bouche de Jane que ce même trio avait passé son temps à l'observer dans le restaurant. Un éclair traversa l'esprit de Jane. Sandra et sa mère n'auraient jamais l'occasion de voir les trois hommes avant qu'il soit trop tard. À coup sûr, le conducteur de la Cherokee était une femme. La Jeep s'arrêterait sur une zone d'arrêt d'urgence. La femme servant d'appât se tiendrait à côté du véhicule, seule et vulnérable, en attendant que le camping-car soit en vue pour multiplier les grands gestes. Peut-être ferait-elle même semblant d'être blessée. Il suffisait alors que ses trois complices se dissimulent derrière le talus bordant l'autoroute, le long du flanc droit du camping-car, dissimulé à la vue des autres automobilistes par le lourd véhicule. Si la mère de Sandra se trouvait toujours à la place du passager, la femme mobiliserait son attention et sortirait une arme au moment où la grand-mère baisserait sa vitre. Il y avait ensuite plusieurs scénarios possibles, selon que les portières du camping-car seraient verrouillées ou non, que la femme abattrait la grand-mère ou se contenterait de la menacer. Quelle que soit la variante, les hommes se précipiteraient et prendraient possession du véhicule en l'espace d'une poignée de secondes. Ils n'auraient plus qu'à abattre la grand-mère si la femme ne s'en était pas chargée, sortir Sandra de force, la frapper et s'emparer des deux fillettes, conduire le camping-car dans une cachette quelconque, abuser de la mère et de ses filles tant que ça les amuserait, désosser le camping-car de tous ses équipements et abandonner les cadavres des quatre victimes en attendant que quelqu'un les découvre. Jane fit grimper son compteur jusqu'à 190, dans le bourdonnement de ses pneus et le miaulement de la carrosserie malmenée par la masse d'air qu'elle traversait. Elle venait de franchir une côte lorsqu'elle aperçut le camping-car immobilisé sur le bas-côté, à moins de 2 kilomètres. Elle réduisit sa vitesse de moitié en plissant les yeux afin d'échapper à la lumière iridescente que projetait le soleil couchant sur l'immensité de champs que l'on aurait pu croire rendus radioactifs par une catastrophe nucléaire. Les ombres interminables des rochers et des panneaux de signalisation dessinaient des fantômes attirés par l'approche de la nuit. En se glissant dans la file du milieu afin de disposer d'une vue dégagée, elle reconnut une voiture noire mat familière juste devant le camping-car. Un homme et une femme rejoignirent la Cherokee, tournant le dos à la circulation. Il ne pouvait s'agir que de l'un des types du relais routier et de la conductrice. Elle était fluette et mesurait 1,60 m tout au plus, Le genre de fille à qui l'on accorderait aisément sa confiance si elle se prétendait en panne au bord de la route. Pour regagner la Jeep avec autant de nonchalance, l'opération devait être terminée et leur complice se trouvait probablement à l'intérieur du camping-car en compagnie des deux femmes et des fillettes. La conductrice et son compagnon s'apprêtaient à regagner la cachette prévue en attendant que les autres les rejoignent avec le camping-car. « Ne vous retournez pas, ne vous retournez pas, ne vous retournez pas !» murmura superstitieusement Jane à l'attention du couple, tout en se glissant le plus silencieusement possible sur la bande d'arrêt d'urgence. La rumeur des autres voitures aurait masqué le bruit du Ford, mais elle prit la précaution de couper son moteur et de parcourir en roue libre les dernières dizaines de mètres avant de s'immobiliser à moins de 2 mètres du camping-car. Un rideau plissé obscurcissait heureusement la vitre arrière du véhicule, mais les autres ouvertures ne seraient pas forcément occultées. Jane descendit silencieusement de voiture en laissant sa portière entrouverte. Le moteur du camping-car tournait au ralenti. De la vapeur de condensation s'échappait de son double tuyau d'échappement. Elle s'approcha du flanc droit du lourd véhicule, fouetté par l'appel d'air chaque fois qu'une voiture passait en trombe sur l'autoroute. Si les conducteurs des autos concernés étaient intrigués par la présence de 3 voitures sur la bande d'arrêt d'urgence, sans doute mettaient-ils en veilleuse leur curiosité, sachant quelle lourde tribu payait souvent les bons samaritains en cette époque troublée. Alors qu'à gauche s'ouvrait uniquement la portière du conducteur, le côté droit du camping-car comptait 2 ouvertures, celle du passager et une autre permettant d'accéder directement à l'arrière du véhicule. Résistant à l'envie d'ouvrir celle-ci, Jane dégaina son arme et s'avança lentement, courbée en 2, de façon que sa tête ne dépasse pas le bas de la fenêtre. Elle se figea sous la portière côté passager et coula un regard à l'intérieur de l'habitacle. Personne. Les 2 sièges étaient vides. Si les pirates de la route se trouvaient dans la kitchenette ou dans la partie salon, toutes 2 reliées à l'avant du camping-car, ils entendraient s'ouvrir la porte, ne fût-ce qu'en percevant plus distinctement la rumeur de la circulation. Elle eut la tentation, l'espace d'un instant, de penser que ce n'était pas son combat, que les salauds à la Cherokee étaient de simples amateurs comparés aux sociopathes qui menaçaient son avenir et celui de Travis. Mais comment ne pas comprendre que tous les combats étaient liés, qu'il existait en vérité une seule lutte universelle à travers le temps et l'espace, menée au nom de l'espoir que survienne à terme un jour meilleur, qu'en évitant une escarmouche, il ne lui restait plus qu'à rendre les armes et mourir. Devant le camping-car, la Cherokee démarra et reprit sa place au milieu de la circulation. Jane tira le silencieux d'une poche de son étui d'épaule et le vissa au canon du Colt 45. Elle tourna la poignée, constata qu'elle n'était pas verrouillée et ouvrit la portière.